Nous recherchons la Voix de la Paix 2015. Vous êtes chanteuse, chanteur ou un groupe de musique? Vos chansons parlent de paix, de réconciliation? Rendez-vous sur lavoixdelapaix.org pour participer et nous envoyer vos chansons avant le 5 octobre. En partenariat avec la Fondation Hirondelle, à travers un réseau de plus de 200 radios dans 5 pays d'Afrique, dont le vôtre, un jury africain et européen élira le vainqueur à qui nous produirons un album distribué dans le monde entier. Lavoixdelapaix.org, des chansons pour construire la paix et la réconciliation.
Bien, nous abordons à présent notre premier thème du jour. Quelle est l'importance du péage sur les routes nationales? Vous savez, certaines routes nationales de la RDC sont soumises au péage. C'est le cas, par exemple, des Kinshasa-Matadi, de Lubumbashi à Kasumbalesa. Faut ne citer que ces deux-là. Cependant, bon nombre de transporteurs qui s'acquittent de cette obligation s'interrogent sur l'intérêt de payer cet argent. En outre, certains transporteurs se plaignent du manque de modernisation des services de péage avec comme conséquence des longues files d'attente. On attend un peu plus longtemps pour payer, enfin, et passer, continuer la route. On en parle aujourd'hui avec M. Fridolin Kassouchi, ministre des ITPR, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, nous parlons aujourd'hui de l'importance du péage. D'abord, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par péage?
Oui, le péage, c'est une forme de taxe pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'un ouvrage public. Pour le cas qui nous concerne, c'est pour l'utilisation de la route. Mais il y a toutes sortes de péages. On peut instaurer des péages pour les aérogares, des péages pour les gares ferroviaires et bien d'autres infrastructures publiques ou services publics.
Alors, pourquoi a-t-on institué les péages sur les routes nationales?
Oui, le péage a été constitué sur certains segments en République démocratique du Congo à grande intensité de trafic pour permettre à l'État, puissance publique, de se concentrer essentiellement sur ses missions régaliennes et de laisser l'entretien des équipements et services qui posaient problème à certains partenaires privés au travers des mécanismes dits des concessions. C'est une pratique que notre pays a connue depuis les années pratiquement 90, vers la fin des années 90, mais des pays qui ont cette longue expérience comme la France ont connu ça depuis les années 1950 pratiquement. Et ce monde se développe de plus en plus. Mais c'est vraiment un meilleur mécanisme pour permettre à l'État de pouvoir déléguer cette prérogative aux privés qui ont souvent la capacité de rendre plus efficaces et plus promptes les interventions et de permettre ainsi à la population de jouir d'un service de qualité.
Alors, qui sont soumis au péage sur les routes nationales?
Tout le monde, tous les usagers sont soumis au péage, sauf selon, bien sûr, les textes réglementaires et légaux de chacun des pays. Le cas de la République démocratique du Congo, il y a une certaine catégorie d'usagers qui sont exonérés du péage, mais le principe est que tout celui qui utilise la route, du fait qu'il utilise, il use la route, est assujetti à cette taxe. Et les exceptions, de par la loi, c'est les cas des cortèges funèbres, c'est aussi les cas des services publics qui sont dans les missions officielles, les cas des ambulances qui transportent des malades, et c'est des cas tout à fait exceptionnels. Mais dans d'autres pays, même les fonctionnaires, les responsables des services publics qui sont en mission sont assujettis à ce péage. Et je pense que on va certainement évoluer vers ça. On va élaborer d'autres textes réglementaires pour permettre à ce que la contribution soit efficace et optimale.
Alors, comment se fait la tarification de cette taxe? Est-ce que tous les véhicules payent le même montant ou il y a des montants différents selon les types de véhicules?
Effectivement, cette tarification est en fonction d'une certaine catégorisation qui a été mise en place, qui correspond à un certain degré de sollicitation de la route. Vous comprendrez qu'un camion remorque qui transporte 30 tonnes de charges ne fait pas subir à la route les mêmes sollicitations qu'une voiture légère qui transporte 4 personnes tout au plus. Et donc, cette tarification est effectivement fonction. Et la charge et la catégorie des véhicules est, pour vous donner une idée, pour le Kinshasa Matadi, les voitures payent pour un trajet complet jusqu'à Matadi de Kinshasa pratiquement 5000 francs, tandis que les camions remorques à 4 essieux payent 146 000 francs. Et ceux qui vont jusqu'à 6 essieux payent 284 000 francs. Donc vous voyez, les proportions sont très très différentes en fonction du type de véhicule, mais cela représente plus ou moins la sollicitation impliquée à la route qui doit correspondre à ce que les services chargés de l'entretien puissent obtenir les ressources pour remettre la route dans son état initial de manière à garantir un meilleur service aux usagers.
Et cet argent, on le paye à l'aller, tout comme au retour, ou c'est une fois?
Ça, c'est le tarif dont je vous ai parlé, c'est rien que pour une course aller. Et il y a, bien sûr, le même tarif est imposé pour la course retour. Ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les tarifs que l'on applique dans notre pays sont malgré tout un peu plus élevé que ceux appliqués dans les sous-régions auxquelles notre pays appartient. Vous le comprenez, pour rentabiliser un péage, il y a essentiellement trois facteurs qui interviennent. Il y a la densité de trafic, et pour le cas des espèces, notre pays a malheureusement, du fait de sa faible activité économique, une densité de trafic malheureusement aussi faible. Le trafic sur toutes nos routes à péage ne dépasse pas plus de 3000 passages par jour. Or, pour rentabiliser un péage de manière optimale, il est exigé qu'on ait un trafic qui atteigne 15 000 passages par jour pour vraiment construire une belle route asphaltée aux meilleures conditions. Et ayant ce genre de trafic, la compensation malheureusement s'est faite par l'augmentation du tarif. Et cette augmentation, effectivement, représente à peu près le triple des tarifs appliqués dans les sous-régions auxquelles notre pays appartient. C'est un prix à payer. Nous avons un grand retard en matière d'infrastructure, vous le savez.
Oui.
Nous sommes parmi les pays dont les déficits en infrastructure est le plus criant. Et rattraper ce retard exige, selon les études des institutions particulières comme la Banque mondiale et bien d'autres spécifiques, ça exige des moyens qui atteindraient environ 9 milliards de dollars par an. Et il faut investir cela pendant plus de 2 décennies. Et cela exige énormément de sacrifices de la part de la population.
Bien, quelle est l'importance du péage sur les routes nationales? On en parle aujourd'hui dans Capi Service avec M. Fridolin Kasmechi, ministre des ITPR, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Vous avez des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capi Foot, chaque dimanche de 18 à 19h, autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081-890-6489.
Quelle est l'importance du péage sur les routes nationales? Nous avons déjà quelques internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook de l'émission. Je m'en vais rapidement lire la réaction d'Evelyne Ikouli, Ikuluadio. Voilà, elle dit ceci. Le péage devrait servir normalement à l'entretien des routes, mais malheureusement, on ne sait pas où va tout cet argent. Que les autorités s'y mettent pour remédier à ce problème, soit qu'on les supprime tout simplement. Monsieur Fridolin.
Oui, je vous écoute.
Vous avez suivi la réaction d'Evelyne Ikuluadio. Qu'est-ce que vous pouvez
lui
dire?
Oui, j'ai bien suivi la réaction. Je crois que beaucoup de gens pourront se rappeler que les routes dont il est question pour l'instant en matière de péage, de concessions routières, c'est essentiellement les routes à forte densité de trafic, des routes, disons, d'intégration carrément interafricaine. Et il s'agit de la route Kinshasa-Matadi, dont l'État, il y a environ 10 ans, était très piteux et qui a bénéficié de plusieurs apports. Il y a eu la Banque mondiale, l'Union européenne, et finalement, pour la suite, à partir de 2009, on a mis une concession routière avec un opérateur privé qui, en tout cas, assure les services requis de manière à garantir un certain confort. Vous verrez que sur la route Kinshasa-Matadi, il y a eu des interventions notamment au pont Ponzo, il y a eu des interventions sur les escarpements vers Matadi qui posaient énormément de problèmes, il y avait beaucoup d'accidents. Actuellement, on est en train d'intervenir sur les segments qui avaient subi quelques altérations, tels que les segments Lukala vers Kimpese, ainsi de suite. Une route avec autant de sollicitations doit être entretenue régulièrement et il suffirait de laisser simplement quelques mois sans entretien pour se rendre compte que les dégâts seront énormes. Le cas de la route Lubumbashi-Kasumbalé, ça est en tout cas encore plus parlant. Et je me rappelle que cette route exigeait un trafic dont la durée entre Lubumbashi et Likasi pour le camion remorque allait de 3 heures, si pas au-delà. Aujourd'hui, c'est un trafic qu'on peut faire en plus ou moins 1 heure et dans les meilleures conditions. Et je ne parlerai pas de la route Likasi-Kolwezi, où il y avait même des bourbiers. Les véhicules restaient pendant 7 jours sur certains segments parce que l'état n'était pas convenable. C'était une route totalement en terre. Aujourd'hui, cette route est en train d'être asphaltée, va être terminée en 2017 et elle sera complètement asphaltée alors que le travaux qui avaient été faits date de 1958, vous vous rendez compte.
Donc, d'accord.
C'est de l'époque coloniale. D'accord. Je pense qu'il y a une amélioration, mais je pense aussi qu'il y a peut-être un peu plus de traçabilité, de transparence, des communications qu'on doit faire à la population pour qu'elle puisse se sentir totalement informée sur ce qui s'est fait.
Bien, nous avons un auditeur en ligne depuis Kinshasa, Laurent Okito. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
C'est jeudi. On vous écoute, Laurent.
Je dis Daniel Kachama. Ok. Bon, en tout cas, nous avons toujours des inquiétudes lorsqu'il y a des péages qui s'effectuent. Pourquoi? Parce que nous, on mérite que quand il y a péage, que cela puisse rentabiliser les services publics. C'est-à-dire les services publics qui rendent service à la nation. Mais malheureusement, vous pouvez voir, il y a l'instauration des péages, ça fait de 2009 à 2015, ça fait 6 ans. Mais qu'est-ce que ce péage a permis de quitter la route de Matadi, par exemple, pour aider la route de Bakadou, pour arranger la route de Lituri, etc., etc. Hein? Donc vous verrez qu'il y a des gens qui entrent, mais ça aide ceux qui sont dans des climatisés à multiplier des immeubles à acheter ou à construire, hein? Au lieu d'aider la route de Matadi, après la route de Matadi, ça sera la route de Bandundu, etc., etc. C'est ce qui nous inquiète, quelque part nous on se dit, bon, qu'ils sont en train de prendre seulement l'argent de la Banque mondiale, etc., etc., au lieu de tracasser la population avec des péages.
D'accord, merci Laurent Okito. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire à Laurent?
Merci. Je voulais d'abord insister sur le péage est instauré sur un segment spécifique pour répondre aux besoins du segment spécifique. Et si jamais effectivement il y avait un surplus, ce qui est souvent rare, l'on pourrait à ce moment-là s'atteler à des segments qui soient connexes à ce segment-là. Je donne un cas concret. La route Likasi-Kolwezi fait 180 km. Et elle avait des ouvrages qui dataient de l'époque coloniale. le coût de reconstruction de cette route pour en faire une autre asphaltée, qui pourrait supporter le trafic d'environ 3000 passages avec plus ou moins 800 à 1000 camions remorques par jour, et de 240 millions de dollars américains. Le péage, à lui seul sur l'axe Colouésie, ne rapporte qu'environ 15 millions de dollars par an. Un calcul simple, pour arriver à 240 millions, il aurait fallu pratiquement faire 16 ans de péage. On a dû prendre les ressources qui étaient collectées sur la route Likasi-Lubumbashi. Et donc, les collectes telles qu'elles se font, comme je l'ai dit, le trafic aujourd'hui, la densité est très faible, que les ressources collectées ne suffisent même pas à maintenir un standard confortable pour la route concernée. Il est donc difficile d'envisager que ces ressources soient affectées ailleurs où l'on n'a même pas encore, pu rentabiliser, pendant qu'on n'a même pas encore pu rentabiliser les segments pour lesquels les péages étaient instaurés.
Mais Laurent nous dit, d'après Laurent, c'est pas qu'il, d'après Laurent, c'est pas qu'il y a mégestion. Il y a des rentrées, mais l'argent est mal géré et utilisé à d'autres fins.
Je dirais que les péages tels qu'il est géré actuellement, il y a une grande rigueur et vous le savez, nous avons tous les outils aujourd'hui de contrôle qui peuvent à tout moment venir faire des investigations. Et nous-mêmes, nous activons ces outils parce que nous avons bien dit qu'il s'agit d'un opérateur privé à qui on a conféré pratiquement ses prérogatives. Chaque 6 mois, chaque semestre, nous faisons des évaluations et chaque année, nous faisons aussi des évaluations annuelles pour voir comment l'argent a été collecté et comment l'argent a été dépensé. Et de manière quotidienne, il y a toutes sortes d'organes qui sont chargés de pouvoir, en tout cas, réguler cette concession. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que de plus en plus, nous évoluons vers des mécanismes un peu de perception non personnifiée. C'est-à-dire qu'on va bientôt, dans les 3 mois, si tout va bien, normalement on a mis tous les moyens pour cela, dans les 3 mois, on n'aura pas à voir des personnes en train de percevoir l'argent au poste de péage, mais on aura des formes, des badges avec différentes catégorisations qui vont imposer le passage ou l'ouverture ou le blocage de la barrière afin de permettre à celui qui s'est acquitté de cette taxe de passer, et celui qui ne s'est pas acquitté de ne pas passer. Donc, de plus en plus, on va aller vers un mécanisme qui fait intervenir moins les hommes. Et ce sera déjà une grande amélioration. D'ici 3 mois, on y travaille. Je peux le dire, on est prêt à ce qu'on instaure n'importe quel mécanisme de contrôle ou d'audit. Il y a énormément d'efforts qui ont été fournis dans ces domaines. Et le problème le plus important, c'est que nous ne sommes pas encore à un niveau où l'on atteindrait un seuil de rentabilité compte tenu du faible niveau de trafic.
Voilà. D'accord. Alors, on va accueillir Chiyoyo, qui nous appelle de Kindu, dans la province du Maniema. Chiyoyo, bonjour. Chiyoyo, bonjour. Voilà, Chiyoyo n'est pas en ligne. Je m'en vais rapidement lire la réaction de Chris Mouchana, qui nous a écrit depuis le Burundi. Je me demande à quoi sert la taxe qu'on paye au Foner, à Uvira, au moment où le pont qui relie Kanvivira et Mulongwe, sur la nationale numéro 5, n'est pas réhabilité. Il y a à peine 9 mois. Nous voulons plus de ces Foner inactifs. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Chris Mouchana depuis le Burundi?
Merci à Chris. Il est vrai que quand on instaure ce genre de mécanisme, il faut beaucoup plus d'efficacité dans les interventions. Le pont Kavimvira, c'est un pont que j'ai visité plusieurs fois. Il est vrai que ce sont des infrastructures qui datent de l'époque coloniale. Et aujourd'hui, ce pont est en train d'être reconstruit grâce justement aux fonds du péage. Et ce n'est pas les fonds collectés sur cet axe, parce qu'il y a une certaine péréquation qu'on assure au niveau de toute la République. Et là, il s'agit de fonds collectés par le Fonds national d'entretien routier. Donc, ce n'est pas une route concédée comme celle dont on a parlé, où un privé peut être intéressé justement à opérer. Et c'est là la preuve que ces routes ne sont pas intéressantes. Si elles étaient intéressantes, si elles étaient rentables, les privés tout de suite seraient intéressés à aller s'installer et pratiquement procéder aussi à une forme de concession. Et les ressources collectées, je n'ai pas les chiffres sur cet axe, ne devraient pas suffire pour entretenir un axe important comme celui-là. Je vais quand même donner quelques chiffres, c'est bon que la population soit édifiée. Entretenir une route en terre exige au bas mot 7 500 $ le kilomètre par an. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo a 17 000 kilomètres de routes réouvertes en terre. Donc, il faudrait, au prix de 7 500 $ le kilomètre, environ 120 000 $ américains par an. Où ils peuvent consulter le budget de l'État. Le budget de l'État n'a prévu que 6 000 000 $ américains par an pour toutes les routes de la République démocratique du Congo. Donc, on n'a pas les moyens de notre politique.
Voilà.
La collecte du FONER,
oui.
Ça, on réalise un chiffre de 110 000 $ américains, lequel chiffre doit être réparti selon la loi de manière à léguer 40% qu'on appelle les rétrocessions aux provinces et 5% pour le fonctionnement du FONER et le reste seulement pour tous les ouvrages. Et là, je n'ai parlé que des routes en terre. Si je dois ajouter les routes asphaltées, eh bien, on serait à un chiffre de 3000 km de routes asphaltées qui exigent, elles, 27 000 $ le kilomètre par an d'entretien. Donc, ce serait 81 000 $ auxquels il faut ajouter les 120 millions, c'est 201 000 $ américains qu'on n'a pas. Et donc, il est tout à fait malheureusement normal aujourd'hui, si on n'a pas développé des capacités de production, que l'on assiste à une dégradation des routes. Il faut par contre développer les capacités de production. Il faut qu'on travaille en synergie, tel qu'on le fait maintenant, avec le ministère de l'Agriculture, les autres ministères, afin de pouvoir améliorer notre productivité, mais aussi diversifier notre économie.
D'accord. Donc, on va accueillir à Chris Mutombo, qui nous appelle de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de l'importance du péage sur les routes nationales, avec Fridolin Kasuchi, ministre des ITPR, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Chris Mutombo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Et bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour,
quelle est votre question?
Oui, moi je suis, n'est-ce pas, d'accord, n'est-ce pas, de ces postes pour le péage, puisque le péage a une grande importance pour vibrer notre caisse et que l'État puisse, n'est-ce pas, s'en sortir pour réaliser ses intérêts aussi, les intérêts généraux.
Alors, quelle est votre question?
Ma question est celle-ci. Est-ce que on ne peut pas, n'est-ce pas, accéder au processus de bancarisation pour le péage, puisque le fait que le véhicule arrive dans un péage, il peut y avoir aussi des fraudes économiques. Alors, selon ma proposition, si et seulement si on peut procéder au processus de bancarisation et que le véhicule commence à payer la taxe du péage ici. Alors, ils reçoivent ne fût-ce que la facture pour une preuve de paiement lorsqu'ils arrivent au péage. Donc, c'est ça ma question que j'ai voulu un peu poser à notre invité, qu'il puisse m'éclaircir si on peut accéder à ces processus de bancarisation pour un peu réaliser bien les choses.
D'accord, merci. Daniel Oufundu nous appelle de Maragui. Bonjour.
Doufourou Daniel depuis Maragui. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute, Daniel.
Oui, par exemple, la route Bounia-Maragui n'est pas bien, mais les usagers payent. Si les usagers payent ces montants exigés, et que l'entretien des routes nationales ne s'effectue pas. Dans ce cas, les usagers ne peuvent pas porter plainte. Oui, c'est ça ma question.
D'accord. La route n'est pas en bon état, mais les usagers payent régulièrement. Et Chris nous dit pourquoi ne pas que cet argent de payage soit payé, cet argent-là soit versé à la banque. Et pourquoi ne pas payer directement au lieu de départ? Comme ça, vous avez votre preuve de paiement que vous allez montrer tout le long du chemin. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux auditeurs?
Oui, merci. Et effectivement, c'est une très bonne suggestion, mais dans la pratique, il faut y aller graduellement. Il est peut-être facile pour quelqu'un qui a bien planifié son déplacement, hein, de pouvoir exiger qu'il aille se présenter à un guichet bancaire et de pouvoir payer, avoir un ticket qui montrerait à tous les postes de péage avant de pouvoir, disons, se faire passer. Mais tout le monde ne planifie pas correctement ce genre de déplacement. Et ensuite, on a aussi des véhicules qui ne vont pas nécessairement, hein, de Kinshasa, par exemple, pour le cas de Kinshasa à Matadi. À Matadi, il y a des véhicules qui peuvent partir de Kisantu, il y a des véhicules qui peuvent partir de Sonabata, et ainsi de suite. Vous n'allez pas les empêcher de passer parce qu'ils n'ont peut-être pas les structures bancaires adéquates. Et il y a des gens qui partent aussi des petites localités. Et donc, il est bon, effectivement, qu'on évolue vers ces systèmes. Et je l'ai dit, c'est vers ces systèmes qu'on est en train d'évoluer. Dans les 3 mois, on aura des gestions de manière plus impersonnelle. Ce ne sera plus l'argent collecté qui va passer entre les mains des personnes pour être, disons, versé dans un compte quelconque. Il y a eu déjà une amélioration, vous le savez, il y a pour l'instant des guichets bancaires qui ont été placés à tous les postes, et donc la manipulation de l'argent est quand même beaucoup plus sécurisée et un peu plus professionnelle. Pour l'instant, c'est une des banques qui opère là-bas. Mais on va évoluer certainement vers cela, on va se fixer rendez-vous d'ici 3 mois, il y aura des grandes améliorations. Mais par contre, je voulais insister sur le fait qu'on ne peut pas les systématiser parce que tout le monde ne planifie pas correctement ses déplacements et il est aussi difficile pour certaines entités de bénéficier des services bancaires. Vous savez que les services bancaires au Congo est considéré qu'il est encore très très faible. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est moins de 10%. C'est très faible et donc on ne peut pas imposer cela à tout le monde au risque d'avoir des difficultés de pouvoir permettre un libre déplacement à tout le monde. Concernant la route Bunia-Mahagi,
oui.
Je l'ai faite plusieurs fois. C'est une route qui est en terre. Elle a un trafic assez important, mais qui n'atteint pas, hein, comme je l'ai dit, le seuil de rentabilité qui permettent à ce qu'on puisse faire même une concession en terre. Nous avons fait des études pour voir comment intéresser les opérateurs privés en vue d'une concession en terre et de nous permettre de nous dégager de cette responsabilité quotidienne et de contrôler plutôt les opérateurs privés. Eh bien, jusque-là, on n'a pas encore eu un concessionnaire privé qui ait répondu à cette requête. Et donc, la rentabilité est faible. Il est vrai qu'elle doit être entretenue de par son importance. C'est une route transfrontalière qui nous permet de nous relier à l'Ouganda. Il y a beaucoup de produits qui viennent de là, notamment le carburant et les produits manufacturés. Mais les ressources collectées sur cet axe, pour l'information de notre ami qui est intervenu tout à l'heure,
oui,
ne dépasse pas $150 par mois.
D'accord, on va accueillir un autre auditeur et puis vous allez continuer. Et Pandola, il nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Et bonjour Marcel, bonjour à notre invité du jour et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, et Pandola, c'est jeudi, on vous écoute.
Oui, jeudi, j'ai juste une contribution et aussi une question à poser.
Rapidement, rapidement, on n'a pas assez de temps.
Ok. Imaginez-vous d'abord un pays comme la RDC. Il y a plusieurs portes d'entrée et de sortie. Mais je considère d'abord deux grandes portes, la porte de Kasumbalesa chez nous ici à Lubumbashi, et la deuxième porte du côté Matadi. Jody, imaginez-vous d'abord ceux qui entrent là-bas, comme frais, comme revenus, il y a trop de laisser-aller de la part de mes frères congolais. Parce qu'aujourd'hui, je suis surpris d'entendre que non, oh, on nous vole les gaz, méthane et autre chose, mais ce qu'on a d'abord, on ne sait pas comment entretenir ça. Parce que quant à moi, je connais qu'il y a deux pays dans le monde qui vivent que uniquement que pour le péage.
Alors, vous voulez dire qu'à Kasumbalesa, l'argent de péage est mal géré?
L'argent est mal géré parce que vous verrez, un monsieur là qui sort avec 20, 50 voitures, il dit que non, moi je suis la famille intouchable, comprenez Marcel.
Aujourd'hui.
Et puis.
D'accord.
Et puis en même temps, du côté Matadi aussi, tous les Libanais qu'on a dans le pays, tous les Blancs qu'on a ici au Congo, l'air bien pour la construction des sociétés, des industries par-ci, par-là, ça passe toujours par Matadi. Combien de millions de dollars qui entrent là-bas? Et tout ça, vous verrez ceux qui travaillent là-bas, ils empochent ça dans leur, ils mettent ça dans leur poche, et puis ils construisent, ils changent de véhicule comme ils veulent. Et puis la deuxième question est la suivante. Quel est le rôle et l'importance de JRCIR de péage? Aussi longtemps qu'on a la police qui peut intervenir. Quel est le rôle de ces gens-là? C'est ça ma deuxième contribution.
Bien, merci. Et Pascal, vous êtes à Doko, à Nitouri, bonjour.
Oui, je suis à Poco.
Vous êtes à Poco. Alors, quelle est votre préoccupation, Pascal?
Oui, je souhaite d'abord une très bonne journée à la Radio Capi et à tous les auditeurs. Comme vous venez de le dire, je suis Pascal Berger-Mbolo à Poco, journaliste de la radio communautaire Bolingwe Meta sur 97.9 FM.
Quelle est la question? Quelle est la question, Pascal?
Oui,
passez directement à la question.
Oui. J'ai deux petites questions sur le péage de route principale. Est-ce que tout ce que l'État perçoit, même si pas massuellement, informe quand même sa population, qu'est-ce qu'on a perçu cette année et on a fait quoi certainement avec ça? Et puis comme a dit l'autorité, notre invité, je m'excuse, notre invité vient de dire qu'il y a certaines personnes qui ne doivent pas être arrêtés, à qui on ne doit pas barricader la route comme ça. Mais je prends l'exemple de la route principale ici au Bouta. On arrête n'importe qui, n'importe comment. Est-ce que je vois que cette tolérance-là paraît un peu être atterrée. Est-ce que il y a nos percepteurs là, nos papas là, est-ce qu'ils savent qu'il y a, il y a certaines personnes qu'on peut arrêter, certaines personnes qu'on ne peut pas arrêter? Et qu'est-ce que l'État dit par rapport à ça? Parce que
bien,
le péage de route, je vois que c'est important pour la réhabilitation de ces routes et à cas de délabrement. Qu'est-ce que vraiment l'État dit à ces gens-là?
Merci Pascal. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez suivi Epanzola de Lumbashi, il dit qu'Alkasumbale, ça, et Amatadi, il y a beaucoup d'argent qui entre, mais vous vous dites qu'on n'a pas encore atteint les seuils de rentabilité, lui dit qu'il y a beaucoup d'argent, il veut savoir où passe cet argent-là, et sa deuxième question est de savoir qu'est-ce qui justifie la présence de la garde présidentielle au poste des péages.
Ok, merci beaucoup, je dois dire que de par ma formation, je suis un technicien, j'aime bien utiliser les chiffres, et donc beaucoup pour moi c'est bien, mais ce n'est pas précis. Une des forces qu'on a à travers la gestion des péages, c'est justement les statistiques. On a des statistiques très élaborées, et une des faiblesses qu'on reproche à notre pays, c'est le manque des statistiques. Et sur les péages, je dois le dire, on a des statistiques très élaborées, et qui doivent simplement être, à mon sens, communiqués de manière régulière à la population. Nous les mettons sur nos sites web, mais je crois que ce n'est pas tout le monde qui a toujours cette facilité de pouvoir aller consulter sur un site d'un ministère pour appréhender tel ou tel autre aspect des choses. On va améliorer la communication. Nous avons commencé par passer par Radio Capi. Je pense que c'est déjà un pas. Nous allons continuer et améliorer. Et pour les recettes des Kasumbale, ça, je peux donner les chiffres. Depuis qu'on a commencé en 2008 jusqu'à fin 2014, les recettes perçues sont de 142 310 087. Et les dépenses sont au-delà, pratiquement des 162 millions $ américains. Et il y a un gap, c'est normal, c'est une concession. Donc l'opérateur privé préfinance et il récupère son argent progressivement à travers la gestion des péages. Et ces statistiques sont très élaborées, je le dis. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas de fraude. Je ne peux pas les garantir. Nous faisons tout pour endiguer les fraudes. Il y a certainement des moments où il y a des pressions et tout, mais c'est là qu'on fait appel encore une fois au patriotisme, au civisme du Congolais. Quelle que soit la complexité, la modernité des mécanismes qu'on mettra en place, si le Congolais lui-même ne réalise pas que ses services, c'est pour son bien, c'est pour le bien des générations futures, eh bien, nous allons dépenser de l'argent pour avoir des mécanismes de contrôle sophistiqués, mais qui seront peut-être mal utilisés ou sabotés. Je pense que le plus important, c'est cela, qu'il faut aussi dire, mais nous n'allons pas nous fatiguer de mettre des mécanismes de contrôle plus rigoureux. Il y a la présence des cinq éléments, je ne pense pas que vraiment ce soit une question qui doive nous inquiéter, parce qu'il y a un décret du chef d'État qui limite bien les services qui doivent opérer aux frontières. Et on connaît ces services, ils sont quatre. C'est la DGDA, la douane, c'est la DGM, c'est l'OCC, et puis c'est les services de quarantaine. Ce sont les quatre services. Les textes sont là, les lois sont là, à nous de les appliquer en tenant compte d'un certain courage, d'une certaine responsabilité et une conscience professionnelle. Concernant la question de certaines routes où des responsables sont assujettis au péage, je l'ai bien dit, et on va évoluer vers ça, ce texte réglementaire, ce n'est pas une loi qui dit que un fonctionnaire en mission ne peut pas payer. Ce sont des textes réglementaires et de par les pratiques qui se font dans d'autres pays, nous allons revoir ces pratiques, nous irons dans les organes attitrés, en conseil des ministres, nous dirons il faut de plus en plus pour éviter justement d'avoir des opportunités d'accélérer la fraude, qu'on puisse exiger que les fonctionnaires aussi payent. Après tout, c'est l'argent qui va servir encore une fois à l'État, qui utilise aussi la route. Je ne vois vraiment pas de problème à cela. Moi-même, de temps en temps, je suis arrêté sur la route, même quand je suis en véhicule officiel. Je pense que c'est tout à fait légitime. Et bien. Donc, je crois qu'on va plus évoluer vers ça pour éviter la confusion. Et je crois que tout le monde conviendra qu'un fonctionnaire, un ministre en mission doit aussi payer, autant qu'un député. Et c'est bon comme ça, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, moins d'usure sur la route, parce que c'est un véhicule d'un député, c'est un véhicule d'un ministre. On devra évoluer vers ça.
Voilà. Jusque-là, le péage, on n'a pas encore atteint les seuils de rentabilité, c'est ce que vous avez dit, mais des efforts seront fournis pour moderniser les services. Et vous avez dit tout à l'heure que dans les jours à venir, on verra plus la présence des hommes au poste de péage, parce que chacun aura sa carte électronique, et puis voilà, on verse, et puis on peut passer sans problème. Monsieur le ministre, Fridolin Kassouchi, merci. Je rappelle que vous êtes le ministre des ITPR, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bonne journée.
Merci beaucoup et bonne journée à vous.